Potentiel, le podcast qui t'aide et t'encourage à explorer et développer tous tes potentiels. Oser être soi avec toutes ses particularités, voilà en quoi consiste mon travail depuis des années. Moi, c'est Élodie, diplômée en psychologie, en psychanalyse, coach, médiatrice familiale, formatrice et autrice de nombreux livres sur les atypies. Moi-même concernée, multipassionnée et au multipotentiel, j'accompagne les atypiques à trouver du sens à leur vie, tout en restant alignés avec qui ils sont. Mais encore faut-il savoir qui on est vraiment, n'est-ce pas? C'est ainsi que je te souhaite la bienvenue ici, dans ce podcast, et que je te souhaite bien sûr une belle écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver, comme chaque lundi d'ailleurs, pour un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un concept qui est très connu, mais qui est vraiment pas pris à la légère par les atypiques. C'est le syndrome du petit colibri. Aussi connu sous le nom du syndrome du colibri, ça va très bien. En fait, ça tire son nom, pour les personnes qui ne savent pas, d'une fable amérindienne qui a été popularisée par Pierre Rabhi. Et dans cette fable, il y a un colibri qui s'efforce d'éteindre un incendie de forêt en transportant de l'eau dans son petit bec. En fait, ça symbolise ainsi la volonté de chacun de faire sa part pour résoudre les problèmes de la société, aussi minimes soient-elles. Le colibri, effectivement, à part quelques gouttes d'eau, ne fait pas grand-chose. Et en fait, c'est le seul animal qui décide quand même d'essayer. Et donc, ce petit colibri qui va finalement montrer l'exemple, qui va peut-être faire culpabiliser les autres de ne rien faire, en tout cas, qui va susciter l'action, la mise en action. Bon, si vous écoutez mes épisodes de podcast, vous savez que j'aime beaucoup parler de mise en action parce que je pense que c'est le seul moyen de lutter contre la procrastination, que ça permet également de développer la confiance en soi. Effectivement, la mise en action développe la confiance en soi et la confiance en soi développe la mise en action. C'est un cercle vertueux, mais ça peut être aussi un cercle vicieux. Parce que il faut faire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, il y a des hauts, il y a des bas, ça dépend des fois. On peut avoir confiance en soi sur un domaine de compétence et pas sur un autre. Mais pour développer la confiance, faut progresser. Et pour progresser, faut en fait échouer. Et pour échouer, il faut essayer. Et pour essayer, il faut se mettre en action. Et ça, c'est pas toujours facile. Surtout pour les atypiques qui soit manquent de confiance en eux, soit effectivement ont un problème de procrastination. Ce qui, à mon sens, est quand même assez relié. Parce que, en fait, quand on manque de confiance, on devient de plus en plus pointilleux sur nos attentes. On idéalise beaucoup les choses. Ça déclenche, en fait, malheureusement, une difficulté à se mettre à l'action parce qu'on se dit que, de toute façon, à quoi bon? On va pas y arriver. Il y a trois frères, ça ne sera jamais parfait. Les personnes perfectionnistes, c'est pas du tout une compétence positive, le perfectionnisme. L'exigence, oui, mais le perfectionnisme, malheureusement, ça aussi, ça va impacter la mise en action. Et c'est souvent lié à des personnes qui sont très angoissées, qui ont besoin quand même de contrôler certaines choses et qui compensent leurs angoisses par du perfectionnisme. Bon, je fais assez rapidement le résumé de certains épisodes de podcast dont je t'ai parlé. Je te mettrai tout ça en lien si ça t'intéresse. Mais je t'ai déjà parlé des petits pas, de la mise en action, du perfectionnisme, ce genre de choses qui sont hyper importantes, effectivement, parce qu'on les retrouve beaucoup chez les personnes atypiques. Faut pas oublier que quand je parle d'atypie, bien sûr, on n'a pas tous et toutes les mêmes atypies. Mais même si on avait tous et toutes les mêmes atypies, on n'aurait pas tous et toutes les mêmes caractéristiques liées aux atypies. Puisque, je rappelle là aussi, mais tu as encore un épisode de podcast à ce sujet, mais nos atypies, donc les neuroatypies, elles sont colorées avec qui nous sommes, avec notre personnalité, notre culture, l'éducation, les rencontres que nous faisons, les expériences de la vie. Et c'est tout ça qui va colorer, en fait, par exemple, ton hypersensibilité. C'est pour ça que deux personnes hypersensibles ne se ressemblent pas forcément et ne seront pas forcément les meilleures amies du monde. Donc qui dit atypique dit aussi forcément différent. Et donc quand je te fais des épisodes de podcast, possiblement tout ne te correspond pas. Moi j'aime bien dire, vois ça comme un buffet à volonté. T'as énormément de choix, tu pourras peut-être pas goûter à tout et tout ne te tente pas de toute façon. Donc prends ce que qui te parle à l'instant T, parce que peut-être que si tu réécoutes cet épisode de podcast dans un mois, dans un an, peut-être qu'il y aura d'autres choses. C'est comme quand on lit un livre. Les livres qu'on aime bien, il faut vraiment les mettre de côté et essayer de les relire, en fait, quelques mois après, un an ou quelques années après, parce qu'on découvre de nouvelles choses qu'on n'était peut-être pas capable ou en capacité ou parce qu'on n'était pas disponible pour, en fait, digérer d'autres informations. Ben voilà, c'est la même chose avec ce que je te livre. Prends ce qui te fait du bien et laisse le reste. Donc oui, là, quand je vais te parler du syndrome du petit colibri, comme j'aime bien l'appeler, même si on peut déjà dire syndrome du colibri parce qu'il n'est pas déjà très gros, l'oiseau, bah, ça peut parler à certains ou ça ne peut pas parler à certains. Et ce qui va être important, c'est aussi peut-être se dire « Ok, ça ne me parle pas, mais est-ce que je remarque qu'il y a peut-être dans mon entourage des gens qui ont ça ?» Et peut-être que je peux les aider ou peut-être que je peux leur partager cet épisode de podcast en fait. Donc moi j'aime bien, c'est vrai, ouvrir ma curiosité à des choses qui ne me correspondent pas forcément parce qu'en fait, parfois je fais des liens avec ce que je vis ou avec ce que vivent certains de mes proches et puis c'est pas parce que je ne l'ai pas vécu que je le vivrai jamais. Donc voilà. Pour les personnes à qui ça parle, n'hésitez pas à me faire un retour de cet épisode une fois que vous l'aurez écouté. Parce que c'est toujours important pour moi d'avoir des retours, de savoir si c'est pertinent, si ça manque d'exemples, si ça manque de quoi que ce soit, pour que j'améliore encore et encore la qualité, le contenu voilà, de mes épisodes de podcast. Ça me tient énormément à cœur, parce qu'il faut bien le dire, hein, quand on fait, je pense, un podcast et qu'on prend du temps comme ça à faire des épisodes chaque semaine régulièrement, ça prend beaucoup de temps entre bah, la préparation, l'enregistrement, puis après le montage, les écrits, les partages sur les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup, beaucoup de temps en fait. Donc c'est hyper important de se dire bah ok ça fonctionne, ça aide des personnes, voilà, ou bien tout simplement tu laisses une petite note, hein, t'as l'habitude sur là où tu écoutes, que ça soit Spotify, Apple Podcast ou qu'importe, une petite note au podcast ou à l'épisode, bref ça me fera très plaisir, donc merci beaucoup aux personnes qui prendront ce temps-là. Donc je vais rentrer quand même dans le vif du sujet un peu plus, donc le syndrome du colibri, tu auras compris, ça fait partie de cette idée de je vais faire ma part. Alors, ce concept, il est souvent utilisé dans le contexte de l'écologie ou du développement durable pour encourager les individus à agir pour la préservation de l'environnement et même par des petites actions. C'est pour ça que, bah, maintenant, je crois qu'il est plus trop acceptable le discours de « Ah oui, mais les grosses entreprises, oui, mais les grosses usines, oui, enfin bon, eux, ils font rien. » Oui, sauf que, inévitablement, il y a toujours pareil, il y a l'offre qui répond à la demande, et si le consommateur en fait change de demande, les offres évolueront également. Puis c'est compliqué de demander à une grosse entité en fait, qui est gérée par plusieurs personnes, de changer d'axe lorsque soi-même déjà on n'y arrive pas pour soi. Je dis ça sans culpabilité parce que je suis vraiment pas la première à être parfaite en ce sens. Je pense que c'est hyper important par contre, eh bien, dans cette idée du colibri, de pas faire un petit peu l'autruche, pour le coup, être plus colibri qu'autruche, et ne pas se mettre la tête dans le sable en se disant « Non, non, mais de toute façon, les autres font rien, tout va bien aller, ça dépend pas de moi, moi je peux rien faire, je ne peux pas avoir d'impact. » Si chacun, et là il y a eu pas mal d'études à ce sujet, hein, si vous suivez des comptes ou des pages, voilà, sur l'écologie, si chacun de nous, surtout dans nos pays à nous, privilégiés quand même, c'est nous qui consommons le plus, si chacun de nous on fait un petit effort, alors il y a plein de petits efforts à faire, hein, je pense que vous en connaissez pas mal, comme voilà, couper l'eau courante lorsqu'on se brosse les dents, il n'y a pas forcément besoin, il n'y a pas forcément besoin non plus voilà, de se laver tous les jours ou de changer de vêtements tous les jours, il n'y a pas forcément besoin également de surchauffer l'hiver, il vaut mieux mettre un pull en plus voilà, sur soi. Ou attention à la consommation d'eau, je pense notamment en France, pour y avoir vécu, je sais que l'été, il faut faire attention à la consommation d'eau parce que bah, justement, il y a des périodes de sécheresse et malheureusement, bah, l'eau peut manquer. Bref, il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles on peut faire attention, éviter de prendre la voiture si on peut faire des déplacements à pied, etc. etc. Après, on n'a pas tous les mêmes conditions de vie, on n'a pas tous les mêmes problématiques. Quand je vous dis, par exemple, évite de prendre la voiture pour les petits trajets, si vous êtes effectivement avec une maladie chronique, avec des difficultés, bah non, ce conseil, il n'est pas valable pour vous, bien évidemment. Donc, il faut voir par rapport à ce qu'on peut soi-même faire. Mais c'est toujours important, voilà, effectivement, de se responsabiliser. C'est toujours, je pense, cette idée-là. Quand je parle, par exemple, de la mise en action dans mes accompagnements, c'est exactement pareil. C'est, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire maintenant? En fait, c'est cette notion de responsabilité, je pense, qui nous manque parce que derrière ça, il y a la lourdeur de la culpabilité. Malheureusement, si le petit colibri se sentait coupable de quoi que ce soit, il ne passerait pas forcément à l'action. Je sais que beaucoup de discours, notamment dans l'écologie, misent sur l'émotion de la culpabilité. Mais la culpabilité, si elle fait passer, allez, temporairement à l'action une personne, c'est pas ça qui va la faire changer de perspective et c'est pas dans la culpabilité où elle va tirer toute son énergie pour faire changer les choses. Il faut que les gens soient convaincus que c'est ce qu'il faut faire. Car lorsqu'on est convaincu que c'est ça qu'il faut faire, on arrive à trouver en soi l'énergie du changement. Et ça, l'énergie du changement, on en parle peu, mais c'est souvent ça, mais c'est souvent ça, malheureusement, en fait, qui est impactant négativement ou positivement. Il y a des périodes de notre vie où on est vulnérable, où on est plus fatigué, où on n'en peut plus parce qu'on, juste parfois, on survit. Amener un nouveau changement, c'est trop compliqué, c'est trop douloureux, en fait. On peut faire des micro-changements, par contre, des micro-changements. Alors là, je parlais d'écologie, mais ça peut être sur autre chose. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie personnelle, professionnelle, c'est intéressant. Je vous donne un petit conseil que je fais régulièrement, c'est que je liste, en fait, les problèmes ou les choses qui ne me conviennent pas dans ma vie. Ça peut être des tout petits trucs ou ça peut être des choses plus importantes. Régulièrement, en fait, je fais cette liste. Mais je ne fais pas cette liste en mode Calimero en me disant, ben voilà, rien ne va, rien ne... Au contraire, parce que je vais aussi faire une liste de qu'est-ce qui va dans ma vie. Et ce qui va être important, et d'ailleurs c'est ce que moi j'ai appris, c'est fondamental, notamment dans le burn-out, parce que qu'est-ce que c'est le burn-out, là aussi je vous avais fait un épisode sur le sujet, c'est en fait un déséquilibre qui perdure dans le temps, beaucoup trop longtemps, donc un déséquilibre chronique, entre les difficultés et les ressources qu'on a pour faire face à ces difficultés. Parce que les difficultés, on en a tous et toutes dans nos vies. Ça, de toute façon, c'est propre à tout le monde. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les ressources pour y faire face. Donc, soit on diminue le nombre des difficultés, soit on augmente les ressources pour y faire face. Si malheureusement, le déséquilibre est trop grand pendant trop longtemps, les difficultés sont trop importantes par rapport aux ressources, alors ça peut être temporairement, mais si c'est pendant trop longtemps, malheureusement, oui, on va s'épuiser. Donc, une personne qui, par exemple, a la sensation que ça ne va pas, qu'elle s'épuise dans sa vie personnelle ou professionnelle, c'est important de lister qu'est-ce qui ne va pas, de manière très concrète et très spécifique. Et effectivement, à ce moment-là, d'essayer d'être convaincu qu'on est totalement légitime à essayer de mettre des choses en place. Ça a l'air de rien, dit comme ça, mais en fait, en accompagnant et surtout beaucoup de femmes atypiques au quotidien, je me rends compte que cette question de la légitimité de prendre soin de soi, elle est hyper complexe en fait. Alors, je ne sais pas si c'est aussi prégnant chez les hommes, parce que j'accompagne beaucoup moins d'hommes, voire quasiment pas. Déjà, mon contenu s'adresse beaucoup aux femmes, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des hommes aussi qui suivent mon contenu et qui s'y retrouvent, bien sûr. Mais lorsque je dis que ça concerne les femmes, ça ne veut pas dire que j'oublie les hommes, c'est juste que je suis moins, je pense, pertinente pour en parler. Mais je trouve qu'effectivement, beaucoup de femmes se disent « Non, mais je ferai ça après. » Dès que ça les concerne, ça sera après. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de femmes qui se découvrent, en fait, atypiques, ou qui se questionnent sur leurs atypies, seulement après avoir découvert cette spécificité chez leurs enfants. Rares sont celles qui, en fait, vont faire tout ce chemin, tout ce cheminement, en fait, de réflexion, d'introspection, par elles-mêmes, et pas parce qu'en fait, elles ont des enfants qui sont concernés ou pas. Donc, je pense réellement que cette question de légitimité, de se dire, en fait, je suis légitime à poser en fait sur un papier clairement mes problèmes, à ne pas remettre ça au lendemain, à ne pas faire l'autruche, et donc à trouver en fait des solutions qui peuvent être sur le court, moyen ou long terme. Vraiment faites cet exercice et dites-moi ce que vous en pensez, parce que je pense que ça peut être hyper pertinent de se rendre compte à quel point on peut être une force d'action, même si on ne trouve pas de solution de suite. Parce que clairement, la plupart des problèmes, s'ils pouvaient se résoudre de suite, ben, ça ne serait plus un problème, en fait. Ça n'apparaîtrait plus comme un problème. Il y a plein de problèmes au quotidien que vous résolvez, en fait, par vous-même, très rapidement, et en fait, vous n'y pensez plus. Là, s'ils y sont encore, c'est qu'en fait, vous n'avez pas su trouver soit des solutions qui vont être sur du long terme, soit des solutions complexes qui répondent à un problème complexe. Un problème complexe, qu'est-ce que c'est ? C'est un problème, en fait, un peu comme une pelote de laine, où il va falloir tirer sur plusieurs fils à la fois, en fait, possiblement pour enlever les nœuds petit à petit. Donc, c'est souvent sur plusieurs domaines de compétences, indépendamment de seulement votre volonté. Il y a plein de choses comme ça où, effectivement, c'est plus complexe. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Ça veut dire que pour un problème complexe, il faut des solutions complexes. Parfois, il faut demander de l'aide. Parfois, il faut mettre des choses sur du court terme et sur du long terme en parallèle. Bref, il y a plein de choses à mettre en place. Le fait de vous légitimer, de vous dire, mais en fait, j'ai toute légitimité à prendre là du temps, du vrai temps de qualité, pour essayer de trouver une solution à mes problèmes, pour prendre ce temps réellement sur d'autres choses, ça veut dire, parce qu'on n'a que 24 heures dans la journée, pour trouver des solutions à mon problème, ça va vous mettre dans un état d'esprit de croissance. Et cet état d'esprit de croissance, il est hyper important justement pour le petit colibri. Parce que, justement, vous allez retrouver de l'énergie. Et on a besoin, comme je vous disais précédemment, de trouver de l'énergie pour faire un changement durable. La culpabilité ne suffit pas. C'est juste impossible. Alors, chez les hypersensibles, petit quid quand même chez les hypersensibles, Si vous avez suivi un petit peu encore une fois mon travail ou si vous avez fait ma formation sur la haute sensibilité, vous savez qu'il y a des études hyper intéressantes sur le sujet et qui démontrent à quel point l'hyper-empathie, la manière de fonctionner du cerveau des personnes hypersensibles, hein, d'un point de vue de l'IRM, ça se voit, ils ont un plus grand besoin de plaire. Mais pas parce qu'ils veulent plaire, parce qu'en fait, ils ont peur de déplaire. Ils ont besoin de faire plaisir, en fait. Donc, forcément, ça fonctionne très bien, la culpabilité chez personnes hypersensibles. C'est un levier de manipulation terrible, d'ailleurs, que beaucoup utilisent dans votre vie perso ou professionnelle. Je pense que vous pouvez remarquer que parfois dans l'entourage, et c'est pas parfois malmenant dans le sens voilà, c'est une personne toxique, pervers narcissique. Non, c'est parce que malheureusement, on a été habitué à totalement banaliser ce genre de choses. Ce genre de petite pique qui va venir nous faire culpabiliser. En fait, c'est devenu une norme dans la communication. Ça devrait pas, mais malheureusement, ça fonctionne assez bien. C'est pour ça qu'elle est encore utilisée. Donc, c'est des petites piques, mine de rien, qui vont venir vous faire culpabiliser. Alors, il y a des gens qui culpabilisent aussi très rapidement, parce que je pense que ça touche quelque chose d'un point sensible, un point dont ils ont conscience et qu'ils n'ont pas envie actuellement ou qu'ils peuvent pas travailler actuellement. C'est juste pas possible, mais du coup, ça vient effectivement... peut-être mettre en mal certaines valeurs, certains besoins, et du coup, ça les fait culpabiliser. Bon, il faut faire la distinction entre les deux. Est-ce que c'est vraiment l'autre qui essaye de vous faire culpabiliser pour tirer parti d'une situation, parce qu'on ne fait jamais culpabiliser quelqu'un, en fait, au hasard, si ce n'est d'ailleurs juste pour se valoriser soi-même, on tire donc parti d'une situation, ou est-ce que c'est vous qui culpabilisez parce que vous n'êtes pas totalement aligné avec ce que vous voudriez ? Et ça peut être un peu des deux, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que la culpabilité chez les hypersensibles, ça va fonctionner. Mais ça va fonctionner pas en mode « je vais faire un changement parce que je suis convaincue », absolument pas. C'est parce que, en fait, il va y avoir très rapidement dans leur tête un peu ce que j'appelle la technique du brochet. C'est-à-dire, vous savez, c'est le poisson qui va calculer, d'une certaine manière, calculer, hein, je mets ça entre guillemets, mais le nombre de calories qu'il va dépenser à essayer de poursuivre un poisson, si ça vaut le coup ou pas. Et si ça vaut pas le coup, il va même pas essayer de le poursuivre pour se nourrir. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'une certaine manière, l'hypersensible va se dire quel est mon quota d'énergie perdue à culpabiliser, quel est mon quota d'énergie perdue à me mettre à l'action et faire le changement et faire en fait ce pourquoi on me fait culpabiliser d'une certaine manière ou ce pourquoi je culpabilise. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, effectivement, l'énergie perdue à culpabiliser est tellement forte qu'il va préférer se mettre à l'action. Donc ça peut durer. Donc ça peut durer un peu plus longtemps chez les personnes hypersensibles et ça peut donc fonctionner. Mais ça va, en fait, quand même leur faire perdre de l'énergie, en fait. Et c'est pas ce qu'on veut. Le but, lorsqu'on est convaincu de quelque chose, et donc dans le passage à l'action, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, même si c'est fatigant, si je reprends l'exemple du colibri, le colibri, je suis sûre que ça le fatigue de faire des allers-retours, de remplir quelques gouttes dans son bec pour aller essayer d'éteindre le feu, l'incendie, ça doit être fatigant. Sauf que quand on est vraiment convaincu de quelque chose et qu'on est totalement aligné, en fait, la fatigue générée est très très moindre par rapport à l'énergie que cela nous donne. Et je suis sûre que vous avez des exemples comme ça dans votre vie tous les jours, où vous êtes tellement bien aligné avec ce que vous avez besoin de faire et d'entreprendre, ça peut être dans le professionnel comme dans le personnel, qu'importe, qu'en réalité, vous le faites. Cette conviction, elle est profondément ancrée. Et c'est ça, finalement, qu'il faudrait essayer de trouver. Alors, c'est pas toujours évident. Déjà parce que il y a quelques difficultés qui sont liées au syndrome du colibri et je vais vous en parler. Le premier, c'est effectivement ce sentiment d'impuissance. C'est-à-dire qu'on peut vite se sentir quand même découragé face à l'ampleur de certains problèmes environnementaux ou sociaux. Enfin, voilà. Quand je parle de colibri, je vous parle effectivement de cet exemple, bien sûr, d'écologie, mais vous avez compris que ça peut être sur tout à la fois. Je pense notamment, alors moi c'est un milieu que je connais bien parce que j'ai été longtemps dans ce milieu-là, mais aux travailleurs sociaux, mais voilà, on peut parler de toute profession confondue, c'est juste que je connais un peu mieux ce milieu, mais je sais très bien que dans d'autres milieux, c'est exactement la même chose, mais pour avoir été assistante sociale pendant des années, je sais qu'on peut être très vite en fait découragé face aux politiques, en fait, aux lois qui en fait brident toute mise en action et toute possibilité de changement. Et ça peut être compliqué parce qu'on donne, on donne de nous, de notre énergie énormément, mais derrière, en fait, ça ne suit pas. Et du coup, on n'arrive pas à impacter le changement qu'on voudrait être. Et du coup, c'est fatigant. Je pense encore une fois à cette image du colibri. Si c'était le seul et que, malheureusement, aucun autre animal emboîte le pas du colibri, ben, à un moment donné, de toute façon, l'incendie ne va pas s'éteindre juste avec son petit bec rempli d'eau. Possiblement, ben, il peut se sentir découragé face à l'ampleur, en fait, de l'incendie. Une deuxième difficulté, et qui va forcément concerner beaucoup de personnes hypersensibles, c'est la surcharge émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même un stress qui est lié à la responsabilité de devoir faire sa part. Ça peut être accablé. Et c'est pour ça qu'on parle aussi d'éco-anxiété. C'est-à-dire qu'on a beau essayer de faire sa part, de réfléchir, on a l'impression que c'est pas assez, que de toute façon ce n'est pas suffisant. Et puis on se met la pression en disant « c'est de ma responsabilité ceci et cela » et ainsi de suite. Sans penser à prendre peut-être la distance qui nous serait nécessaire aussi émotionnellement pour prendre soin de nous, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et c'est aussi pour ça qu'on peut tomber totalement en burn-out. Et cette surcharge émotionnelle, elle est aussi liée à l'intensité, à la fréquence en fait des émotions des hypersensibles. C'est forcément, voilà, il faut prendre ça en considération. Il y a aussi quelque chose qui, je pense, joue sur la surcharge émotionnelle, c'est le scepticisme, la critique, la négativité en fait de notre environnement. On peut vraiment se sentir très découragé par les critiques et le manque de soutien de l'entourage. Je pense que vous avez tous et toutes des exemples comme ça qui vous viennent en tête, de choses que vous avez eu envie de mettre en place. Donc là encore, que ce soit personnel ou professionnel. Par exemple, personnellement, essayer de changer l'alimentation de la famille pour quelque chose de plus sain pour la famille. Et puis on a le deuxième parent qui n'est pas du tout dans cet esprit, bien au contraire. Et du coup, c'est décourageant parce que c'est pas évident de changer les habitudes alimentaires, encore moins auprès des enfants. Donc déjà, c'est pas facile de changer les repas, d'essayer d'avoir une autre charge mentale du repas, de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va acheter, de motiver les enfants à goûter peut-être ce qu'ils n'ont pas envie de goûter, parce que beaucoup d'enfants passent par ces phases-là. Et si en plus le deuxième parent, en fait, n'est pas du tout dans cette dynamique, c'est hyper décourageant. Professionnellement, comme je vous disais précédemment, essayer de mettre en place un projet, puis finalement on se rend compte que d'une part il n'y a pas les fonds, mais en plus personne ne voit l'intérêt au projet que vous essayez de mettre en place et vous critique en disant ça ne marchera pas, et du coup il tue dans l'œuf le projet. C'est vraiment compliqué. Il y a des gens qui sont toujours dans la négativité, c'est une manière de se protéger pour eux, mais c'est vraiment compliqué effectivement, et c'est très décourageant. Du coup, il y a aussi le manque de ressources, et ça je vous l'ai dit aussi, ça peut être difficile pour les personnes de trouver des ressources nécessaires. Alors là, je vous parlais effectivement de ressources des fois financières, tout ça, mais donc on va parler aussi de manque de ressources humaines. En fait, quand les gens sont dans le scepticisme, on peut dire que c'est un manque de ressources effectivement aussi. Et c'est pas toujours facile de trouver en plus l'énergie, de sortir finalement de son cocon, de son entourage premier, pour trouver en fait à l'extérieur peut-être de l'aide, et trouver, enfin en tout cas, de demander de l'aide à des personnes extérieures. C'est vraiment pas évident. Même si aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux nous permettent peut-être une plus grande mise en action, elle n'est pas forcément plus facile dans les faits. Il y a donc forcément quelque chose qui en découle, c'est un sentiment d'isolement. C'est-à-dire qu'on peut se sentir très vite seul, incompris dans sa démarche. Et là, ça va parler au petit colibri en vous. Lorsqu'on est un colibri, parce que beaucoup d'atypiques, effectivement, ont ce besoin d'utilité. De toute façon, ils ont besoin de donner du sens à leur vie, du sens à ce qu'ils ont envie d'entreprendre. Et donc, vont aller dans ce qu'on appelle le syndrome du colibri. Eh bien, on peut se sentir très vite seul. Avoir la sensation qu'on est le ou la seule, en fait, à vouloir changer les choses. Alors, bien sûr, on se rend compte qu'on n'est pas le ou la seule, parce que sur des milliards d'individus sur Terre, encore une fois, Internet nous permet de voir qu'on n'est pas seul. Mais c'est pas pareil de se dire que quelque part dans le monde, même dans notre pays, mais quelqu'un qu'on ne fréquente pas est aligné avec ce que nous on ferait, et de n'avoir vraiment personne dans notre entourage qui est motivé. Et je trouve qu'il y a une sorte aussi d'hypocrisie parfois de l'entourage en disant mais si, mais je t'empêche pas de faire ce que tu veux, vas-y, lance-toi. Sauf que c'est pas du tout ça finalement, de se sentir soutenu. C'est pas oui, bah vas-y, lance-toi. Non, là on sent le scepticisme en disant oui, bon. J'en pense pas moins, mais lance-toi. Voilà, donc une sorte d'hypocrisie comme ça, qu'on ressent énormément, surtout lorsqu'on est atypique et qu'on lit entre les lignes, et qui peut être décourageante. Et c'est pour ça que je dis souvent, essayez de vous rapprocher justement, essayez vraiment de vous rapprocher de personnes qui ont des convictions comme les vôtres sur le même sujet. Par contre, on ne peut pas en vouloir aux gens qui ne partagent pas exactement les mêmes convictions. Moi, je dis souvent, c'est compliqué d'être à fond sur tous les domaines. Concrètement, il y a des gens qui sont hyper investis, par exemple, dans le domaine de la parentalité, pour faire évoluer les droits de l'enfant, d'autres pour le droit des femmes, d'autres pour le droit des migrants, d'autres pour l'écologie, d'autres... Bref, vous avez compris l'idée. C'est très compliqué d'être un colibri sur tous les fronts. Là, si je reprends encore une fois ce parallèle avec le petit colibri qui essaye d'éteindre l'incendie, imaginons qu'il se rende compte, je ne sais pas moi, qu'il y a un problème autre de l'autre côté de la jungle, puis encore un autre problème, je ne sais pas moi, de floraison, il faudrait distribuer plus de graines parce qu'effectivement il y a une déforestation, blablabla. Enfin, le colibri, il ne peut pas être partout à la fois. Ça, c'est juste pas possible. Et du coup, ça peut générer quoi ? un conflit de valeurs et de l'épuisement. En effet, parfois, en fait, on peut se retrouver en conflit avec nos propres valeurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets sur lesquels on aimerait s'investir. Il y a plein de sujets où on se dit qu'on ne fait pas assez. Il y a plein de sujets où du coup, on culpabilise ou on nous fait culpabiliser parce qu'on devrait être plus responsable. En fait, il y a plein de sujets où on aimerait s'investir, mais on ne peut pas. Et faire face à ça, c'est très compliqué, surtout pour les personnes qui ont vraiment ce syndrome du colibri très 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 fort. Parce qu'au final, j'ai la sensation que ça nous fait plus de mal que de bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai la sensation que parfois, à force de, voilà, encore une fois, de s'auto-flageller, je ne fais pas assez, déjà dans ce domaine-là, mais en plus aussi dans les autres. Et du coup, on utilise cet argument en disant, déjà que je ne fais pas pour ces autres domaines, alors au moins que je sois au top du top sur celui-là. Bon, alors, je ne vais pas vous apprendre, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. On reste des humains, en fait, avec des hauts, avec des bas, sans parler de nos hormones, nous, en tant que femmes, où il y a des périodes du mois où, clairement, apparaissait dans notre ligne, c'est compliqué la vie. Et puis, voilà, il y a des aléas, il y a des drames qu'on vit aussi au fur et à mesure de notre vie, et sans parler de ça, eh bien, on n'est pas toujours au top. Et ça, le colibri, malheureusement, il ne s'écoute pas toujours. Il ne s'écoute pas toujours parce qu'en fait, il est tiraillé. Et quand on n'est pas aligné avec nos valeurs, surtout en tant qu'atypique, forcément, ça génère une grande insatisfaction chronique, permanente et douloureuse. Et ça peut générer un véritable épuisement. Il y a une fatigue émotionnelle, une fatigue psychique, mais une fatigue aussi physique qui peut se ressentir. D'ailleurs, c'est hyper intéressant de voir que même les professionnels de la santé expliquent que des mal de dos chroniques, il peut y avoir, et vous le savez, il peut y avoir un lien avec le psychisme. Alors, pas toujours, parfois il y a des douleurs au dos qui n'ont pas de lien. Alors bien sûr, il y a des personnes qui ont des douleurs au dos et ça n'a rien à voir, mais je trouve que, par exemple, l'expression de dire « j'en ai plein le dos », ça démontre bien la somatisation parfois qu'il peut y avoir en fait. Donc je vous encourage, si c'est votre cas, peut-être à aller chercher, encore une fois, sur une fatigue peut-être émotionnelle, parce que trop s'engager dans des actions altruistes, à mon sens, c'est une manière un peu détournée de se désengager de soi. Il y a des gens qui font ça. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, chacun ses choix, chacun met la vie qu'il souhaite et comme il le souhaite, ou au maximum qu'il peut souhaiter, enfin voilà, vous avez compris l'idée. Mais au fond du fond, lorsque ça dure trop longtemps et que c'est autant douloureux, quand il y a des impacts comme ça sur la santé physique, c'est que d'une certaine manière, il y a un désalignement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et que cet engagement, qui est vraiment, mais dans cette lourdeur finalement, qui est trop intense, il démontre peut-être, encore une fois, et c'est là où je boucle la boucle du début, un problème de légitimité pour soi. Parce qu'au final, ça va juste générer un sentiment d'inefficacité. Parce que lorsqu'on a la sensation que nos actions, en fait, semblent insignifiante, que ce n'est pas assez par rapport à l'ampleur du problème ou par rapport à notre idéalisme aussi, ça entraîne un sentiment d'inutilité. Et c'est pas du tout ça le but. Le but du syndrome, finalement, du colibri, c'est de répondre à notre besoin d'utilité. Sauf que, arrivé à un certain stade, ça déclenche un sentiment d'inutilité. Et là, c'est intéressant de se dire, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que je réponds bien, finalement, à ce dont j'ai besoin? Pas vraiment. Sans parler effectivement de l'absence de reconnaissance en général qu'on a des proches ou autour de soi qui peut être totalement démoralisante, surtout si en plus soi-même on est perfectionniste, on va même pas reconnaître soi-même les petites actions qu'on fait. Je sais pas si ça vous parle tout ce que je suis en train de vous dire, mais j'espère vraiment que ça vous a donné du grain à moudre pour comprendre en fait que le syndrome du colibri, c'est pas juste « je passe à l'action, je fais ce que je peux, j'ai envie de me rendre utile ». C'est un point parfois où malheureusement, ça a des effets néfastes sur soi. Et du coup, en fait, c'est pas en s'épuisant qu'on pourra régler les choses. C'est pas en se culpabilisant qu'on pourra passer à l'action sur du long terme, qu'on pourra opérer un réel changement majeur en soi. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. C'est justement en retrouvant en fait un pourquoi, une énergie, un alignement en fait, et surtout en repensant en soi, dans le sens où je me légitime aussi, je légitime mes problèmes aussi, peut-être en signifiant que je les juge, parce qu'il y a souvent des gens qui disent ça, ah, mais il y a des gens qui ont des problèmes pires que les miens. Oui, on est d'accord, mais je pense que si on devait faire un concours des pires problèmes qu'il existe, je vous souhaite de ne pas être dans le top 10, quoi, même pas dans le top 100. Donc, à partir de là, ça ne sert à rien. Vous avez quand même le droit de légitimer en fait vos difficultés. Et du coup, mais c'est pas juste de dire voilà, j'ai ces problèmes, j'ai les... Non, de partir à la conquête de solutions pour les résoudre. C'est comme ça en fait que vous allez aussi avoir une meilleure connaissance de vous-même et ça va vous permettre du coup aussi de davantage être un colibri, tout simplement aligné, qui sait où est sa part, comment faire sa part pour ne pas s'épuiser et pour continuer de l'être en fait sereinement sur du long terme. Voilà, parce que oui, je reste convaincue que nous les personnes atypiques, on est de beaux colibris et que le monde a vraiment, vraiment besoin de nous. Je m'arrêterai là pour ce podcast, pour cet épisode. J'espère que ça, encore une fois, ça a pu vous donner quelques petits tips, astuces ou réflexions. Et je vous dis à lundi prochain, en vous souhaitant une très belle semaine. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!